David Oulofen, bonjour, très heureux de vous retrouver à l'occasion de la présentation au Festival de Namur de votre dernier film, Le Quatrième Mur, qui avait été d'ailleurs découvert à Angoulême le 28 août dernier et qui sortira le 15 janvier prochain. Il s'agit de l'adaptation du livre de Serge Chalandon, qui est sorti en août 2013, prix Goncourt des lycéens, qui avait donné lieu à plusieurs adaptations au niveau théâtre, 2016-2017, et notamment au Festival Off d'Avignon. Quand avez-vous découvert l'ouvrage et qu'est-ce qui vous donne l'envie de l'adapter au cinéma ?
Je pense que j'ai lu tous les romans de Serge Chalandon. C'est un auteur dont j'attends la publication du prochain roman et que je lis systématiquement. Alors je ne sais pas exactement quelle année j'ai lu Le Quatrième Mur, mais je l'avais lu. Je me souviens d'avoir eu une émotion extrêmement violente à la fin du livre, un sentiment de coup de poing dans le ventre. Mais je l'avais pas lu dans l'optique d'une adaptation. Et je ne m'étais pas dit que c'est un roman qui sera facilement possible d'adapter. Je m'étais dit que la complexité de la fabrication rendait un peu le projet impossible. Puis quelques années plus tard, moi, je m'intéressais à d'autres romans de Serge Chalandon. J'avais envie d'adapter Mon traître et Retour à Killybeg, qui sont des romans qui se passent en Irlande. Et dont les droits étaient pris. Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de téléphone d'une productrice qui s'appelle Christine Rouxel, qui venait d'acquérir les droits du Quatrième Mur et qui me proposait de l'adapter, de le réaliser. Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait une productrice
intéressée,
enfin, en tout cas suffisamment courageuse ou inconsciente pour se lancer dans cette aventure-là, moi j'ai dit oui tout de suite. Et d'ailleurs, ça a été difficile à monter financièrement parce que il y a un certain nombre de choses qui faisaient peur. En tout cas sur le plan de la recherche de financement, la guerre, le Liban auquel personne ne comprend rien, le théâtre aussi, qui est un élément qui peut faire peur, qui peut être...
La Belgique est revenue quand même, du coup.
Mais tout à fait, non, mais c'est étonnant parce que le film a pu finalement être monté grâce à l'apport de pays comme la Belgique ou le Luxembourg, qui peuvent paraître moins... intrinsèquement lié au Liban que la France. Et voilà, c'est grâce à la Belgique, au Luxembourg, que Christine Rouxel a réussi à compléter le financement et qu'on aille fabriquer le film là-bas.
Alors, l'action se situe en 1982 et comme Marwan, donc le fixeur, dit à Georges, c'est le Liban qui tire sur le Liban. Ce sont les roquettes des Palestiniens sur Israël qui se fait une joie de les renvoyer. Enfin, finalement, il n'y a rien de changé 42 ans plus tard. Non,
oui, vraiment, on est rattrapé par le réel, on est rattrapé par l'actualité d'une façon tellement brutale. Moi, je suis un peu, ébranlé, ému, parce que les gens qui ont fabriqué ce film... sont actuellement dans la situation des personnages qui sont décrits par le film, à savoir qu'il y a la guerre. Ils ont peur des bombardements, des bombes. Déjà, en tournant le film il y a 2 ans, c'était fin 2022.
Fin 2022.
Rien qu'en tournant le film, déjà, il y avait un sentiment de éternel retour, de tragédie sans fin, parce que même s'il n'y avait pas encore la guerre comme maintenant, déjà le Liban était déjà techniquement en guerre contre Israël. Mais c'était surtout qu'il y avait tous les stigmates de la guerre civile qui s'est arrêtée en 90 encore présents sous nos yeux et dont le film rend compte. Les impacts de balles, les cratères, les maisons démolies. C'est encore un pays qui n'a pas effacé toutes les traces de cette guerre-là. Elle est encore très présente, cette guerre-là. Et voilà. Déjà, il y avait ce sentiment-là un peu mélancolique que le passé, la guerre est toujours présente et c'est renforcé évidemment par le parallélisme des situations, le retour de exactement ce qu'on décrit dans le film.
Et finalement, comme un des personnages dit, donc il y a les acteurs, mais en même temps nous sommes avant tout des guerriers et on doit se battre et pas nécessairement vous.
C'est Marwan qui dit ça, ouais. Effectivement, qui dit à Georges, tu oublies que tes acteurs, ce sont des soldats. Georges, il décide d'oublier ça. Il pense, Georges, que le théâtre peut créer une sorte de comment dire, je dirais, de microcosme, de pureté, d'utopie. Le roman de Sor Chalandon décrit effectivement que la guerre attaque ce petit microcosme, rentre, s'immisce, notamment dans la tête de Georges, qui va être quelqu'un qui vient au Liban avec plein de bonnes intentions, et qui va être corrompu, qui va être sali par cette guerre qui s'immisce dans les failles humaines de ce groupe, dans les blessures. En l'occurrence, chez Georges, ça va s'immiscer dans le fait qu'il va perdre un amour, il va perdre son amour, et qu'il va être, suite à ça, partie prenante de la guerre.
Et Georges, finalement, va être plongé dans l'horreur absolue, et il n'en est pas préparé. Est-ce qu'on l'est jamais ?
Vous savez, il faudrait poser cette question-là à Sor Chalandon, on en a souvent discuté. Je pense que Sor Chalandon, il est rentré dans ce camp à Fabré-Chatila le lendemain du massacre, là, en tant que reporter de guerre, en tant que journaliste de Libération. Il a vu de telles horreurs que je pense qu'il n'a pas pu continuer à faire ce métier-là. Et qu'une fois rentré en France, il y avait cette image de cette femme qu'il avait vue sur un lit, qui l'obsédait. Il l'avait ramenée avec
lui.
Cette jeune femme morte, qu'il décrit dans le livre et qui est montrée dans le film, il a eu besoin de trouver du sens à ce destin-là. Donc il a commencé à imaginer que cette femme-là est une actrice qui devait jouer Antigone. Et c'est comme ça,
ça s'est construit.
C'est comme ça que s'est construit son roman, imprégné du réel, avec cette nécessité de l'utopie et cette illusion qu'est le théâtre. Et il a eu besoin d'écrire ce roman pour ramener ce Georges qu'il avait été, Sabra et Chatila, et presque le tuer là-bas, le tuer là-bas de tout ce qu'il avait ressenti, c'est se débarrasser de ce qu'il traînait. Donc c'est le quatrième mur, c'est un mélange d'illusions de réel. C'est le titre lui-même l'indique. Le quatrième mur, c'est cette notion théâtrale, cette espèce de mur imaginaire.
Qui n'existe pas, imaginaire.
Qui sépare les acteurs, le public des acteurs, l'illusion du réel. Dans ce film-là, dans ce roman-là, ce quatrième mur, il est pour eux. Georges le traverse. Et j'ai l'impression en ce moment que le réel fait à nouveau que ce film-là, qui devrait être de l'illusion, qui devrait être un simple film de cinéma, lui-même, il traverse le quatrième mur, il rejoint le réel, parce que certaines images sont extrêmement proches de ce qu'on voit
actuellement. Laurent Lafitte, qui joue donc Georges, est un ancien pensionné de la Comédie française, et il l'a quitté d'ailleurs cette année. Est-ce qu'il vous fallait un homme de théâtre pour jouer Georges, pour cette sensibilité aux enjeux de ce qu'il allait faire?
J'ai envie de dire oui. Enfin, en tout cas, il me fallait, pour être honnête, avant tout un comédien talentueux, Laurent Lafitte. Et en plus, il a cette expérience-là du théâtre qui, moi, me garantissait, non, mais qui me laissait penser que les scènes de répétition théâtrale, qui sont assez nombreuses dans le film, allaient être des scènes vivantes, allaient être des scènes bien senties. J'avais pas envie du tout d'un truc pesant. Je comptais beaucoup sur Laurent Lafitte pour rendre ce travail théâtral au quotidien, de le rendre vivant, de le rendre amusant, accessible. Je lui ai laissé une grande liberté dans ces scènes-là. On s'est éloigné du scénario aussi nécessaire. Donc moi, Laurent Lafitte m'intéressait aussi de ce point de vue-là, effectivement. Le talent et puis l'expérience théâtrale.
Alors le facilitateur, donc le fixeur, comme on a dit, est interprété par Simon Abkarian, pardon, mais qui est aussi un homme de théâtre. Est-ce que ça n'a pas été un peu frustrant pour lui de se trouver derrière ce quatrième mur et de regarder finalement ce qui se passe sur la scène?
Alors je pense que je ne peux pas répondre à sa place, mais je pense que pour Simon Abkarian, c'est un film qui a été de toute façon très chargé en émotion, parce que Simon Abkarian est un Arménien du Liban.
Il a vécu
un Arménien du Liban qui a vécu, a grandi à Beyrouth,
et qui
est revenu faire ce film, qui a rejoint sa famille, et je pense que c'était un moment riche en émotions et que je pense que le film en bénéficie. Il était à fleur de peau et je pense que, que ça se...
Ça a été un choc quand il est revenu. C'était la première fois qu'il revenait.
C'était pas la première fois qu'il revenait, mais ça faisait 5-6 ans qu'il n'était pas revenu. Et je pense qu'il était très ému de faire ce film, de faire ce personnage. Et je pense pas qu'il était frustré. Je pense qu'il il y avait
je
un
peu... Je parle de l'homme de théâtre. Hein,
ça, c'est... Et l'homme de théâtre, en fait, fait ce genre de mélange, d'alliage entre la tragédie grecque et le réel et le Liban. Ces spectacles de théâtre sont sur le même principe. Il a d'ailleurs une pièce de théâtre qui va sortir en octobre, à nouveau sur ce même principe de la tragédie grecque réactualisée et qui parle du présent. Ce qui est le quatrième mur, je pense, ce qui est Antigone de la nuit. Donc je pense qu'il était très confortable avec l'idée même du film. Okay.
Actualité, c'est pour ça finalement que les comédiens viennent en tenue de ville, comme Laurent l'explique.
Oui, c'est étonnant. Effectivement, dans le film, Georges, metteur en scène de théâtre, a envie que la pièce de théâtre sente le réel. Comme il dit. Et je veux dire, on est trop servi par le réel, là, parce qu'effectivement, le film sent terriblement le réel à cause de ce qui est en train d'arriver. Mais l'idée, c'était ça. Hein, et c'est dit dans les indications de Georges de cette pièce. Cette pièce doit parler au présent. Et moi, j'avais comme objectif de faire ce film-là qui devait parler au présent. Je pensais pas qu'il allait parler au présent de façon aussi brutale.
Alors, Ferrat, vous avez pu tourner à Beyrouth. Ça a dû être aussi un choc, comme ça allait pour votre comédien, enfin pour le personnage de Georges.
Oui, ça c'est sûr. C'était il y a une sorte de mise en abyme, effectivement. Moi, je me suis retrouvé pas au moment du tournage, parce qu'au moment du tournage,
c'était un peu d'inconscience quand vous rendiez compte quand même de ce qui allait vous arriver en allant tourner sur place. Hein.
Le cinéma requiert beaucoup de préparation, donc j'ai fait beaucoup de voyages au Liban ces dernières années. La surprise n'est pas intervenue au moment même du tournage, mais effectivement, les premiers voyages au Liban, c'était en plus avant l'explosion du port. Je suis retourné juste après l'explosion du port. Je me demandais s'il n'allait pas m'arriver la même chose que Georges. Est-ce que ce projet était raisonnable? Tout comme Georges, je n'avais aucune envie de dire non, de faire demi-tour. Je dis ça en toute humilité parce que j'ai pris beaucoup, 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 beaucoup moins de risques, même pas de risques par rapport à ce que dit Georges dans le.
Marwan dit cette pièce, c'est ton rêve, pas le leur, c'est de la pure vanité. Vous le faites pour soulager votre conscience. Alors, est-ce que je pourrais vous poser la question? Et vous, pourquoi avez-vous fait ce film?
Je répondrai comme Georges. Non, c'est pas pour soulager ma conscience, je ne crois pas. Moi, je pense que j'ai fait ce film parce que le roman pose une question qui me semblait très intéressante, qui est celle du pouvoir de transformation de l'art, du théâtre, du cinéma, qui est évidemment une question qui est intéressante quand on fait du cinéma. Est-ce qu'on peut réellement transformer le monde avec une œuvre, un film, une pièce de théâtre? Moi, quand j'ai lu le livre, je pense que j'étais très ému parce qu'effectivement, ça posait cette question-là. Du moins, ça posait la question sur les limites de la transformation, limites du pouvoir de transformation de l'art. Le théâtre n'arrête pas la guerre dans notre histoire. On le sait très bien que le théâtre n'arrête pas la guerre. Hélas. Et pourtant, j'ai ressenti une forte émotion parce que je pense que, heureusement qu'il y a des gens comme Sam, des gens comme Georges, heureusement qu'il y a des utopies, heureusement que le monde, malgré tout, continue d'avancer avec des gens qui ont des rêves pas raisonnables. Et ça me paraît presque indispensable. Et j'ai eu l'impression d'une sorte de défaite. Certes, mais une défaite magnifique, et que l'art, ce sont une succession de défaites magnifiques. Et voilà, ce qui m'a intéressé dans ce film, ce qui m'émeut encore dans le livre de Sorge, c'est quelqu'un qui est peut-être déçu par la politique, qui a le sentiment que c'est pas la politique qui pourra transformer le monde, mais que c'est l'art dans tout ce qu'il y a de plus sincère, de plus utopique et de plus incontrôlable aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a touché personnellement et qui était assez déconnecté du Liban, en définitive, qui est une question universelle.
Antigone, n'est pas un drame, comme vous l'expliquez, mais une tragédie où le sort est joué d'avance, il n'y a rien à faire, tout le monde le sait. Et le quatrième mur ?
Le quatrième mur, c'est aussi une tragédie. Georges, à la fin du film, là, je divulgage, je spoil comme un fou, mais meurt comme un roi. Il applique les préceptes qu'il a indiqués à ses comédiens en dirigeant Antigone. Et comme toute tragédie, c'est quelque chose qui éclaire notre monde. Une tragédie, c'est pas on se tête la tête contre les murs. C'est qu'on voit qu'il y a certaines enfermements qui nous dépassent. Une tragédie, ça donne envie de se battre. Antigone, c'est un merveilleux personnage de résistance politique, féministe. Donc Antigone, elle est morte des milliers de fois depuis qu'on représente Antigone de Sophocle ou de Danouille. Elle est en réalité toujours aussi vivante. Et j'espère que Georges continuera à vivre dans cette volonté de transformer le monde. En revanche, le quatrième mur, j'espère qu'au-delà de montrer que l'utopie est peut-être nécessaire à la transformation du monde, c'est que ça montre la guerre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire quelque chose qui est absolument dégueulasse et affreuse. Et c'est pas que des mots, c'est on voit dans le roman et on voit dans le film comment ça corrompt les relations sociales, comment ça s'immisce dans une troupe théâtrale, comment ça s'immisce dans l'esprit de Georges qui arrive à plein de bonnes intentions.
Qui est un bon candidat au départ.
Et qui finit par être sali et se salir dans cette guerre-là. Donc, c'est une démonstration du côté très corrupteur de la guerre.
Parlez-moi un petit peu de l'utilisation du caméscope. C'était dès le départ où vous pensiez l'utiliser ?
Oui, dès le départ, on pensait l'utiliser. On a d'ailleurs eu beaucoup de mal à trouver des caméscopes des années 80. C'était des images qui n'étaient pas trafiquées, qui ont été prises avec des vieux appareils de l'époque. On voit d'ailleurs le gap technologique qu'il y a eu en 40 ans. Il y a beaucoup de jeux dans le film, encore une fois, entre l'illusion et le réel, entre la représentation et le réel. Ça en fait partie. On passe de ces images filmées par Georges, qui sont censées être des images de 82 au caméscope, qu'en fait on a tourné en 2022, et le réel.
Pour le son, vous avez fait appel à notre compatriote Pierre Mertens. Énorme travail sur les sons. Comment ça s'est passé avec lui ?
C'est quelqu'un qui est technicien, qui est techniquement très compétent. C'était compliqué, très compliqué pour le son, pour une raison toute bête, c'est qu'il n'y a plus de distribution d'électricité à Beyrouth toute la journée, et que chaque immeuble a un groupe électrogène. Il y a des groupes électrogènes absolument partout à Beyrouth. Alors, pour un ingénieur du son, c'est l'enfer. Un groupe électrogène, habituellement sur un tournage, c'est quelque chose qu'on met le plus loin possible avec une ligne extrêmement longue, etc. Là, la ville en était truffée, absolument partout. Donc il fallait quelqu'un d'expérience comme Pierre Martens pour y arriver. Et le son, c'est un petit miracle. Il a réussi à faire quelque chose de très propre dans un univers, je pense, cauchemardesque pour un ingénieur du son. Je pense qu'on ne peut pas faire pire.
Alors le film est prêt déjà depuis plusieurs mois. Finalement, il avait été tourné quasi en même temps que Les Derniers Hommes, qui lui est sorti début de cette année. Et finalement, votre film ne sortira qu'en janvier. Difficile au niveau des distributeurs, une peur peut-être, et peut-être encore peur encore plus grande peut-être maintenant, non ?
Non, je pense que c'est le pacte qui va distribuer le quatrième mur.
Et Anguin en Belgique.
Anguin en Belgique. Je pense qu'ils sont très confiants sur la distribution du film. Il y avait en tout cas en France une volonté d'éloigner la sortie des deux films.
plus par rapport aux derniers hommes que par rapport à une situation
parce que
l'actualité qui est brûlante, c'est le moins compris. Hein.
En fait, le dernier homme devait sortir encore un petit peu avant, devait sortir en novembre 2000.
Dans la foulée de Deauville, quoi.
Oui. Et ils l'ont retardé, ils l'ont repoussé à février.
À février.
21 février 2024. Ce qui fait que le pacte qui avait envie de sortir en juin de cette année a trouvé que c'était trop proche. Il y avait aussi ensuite, suite au 7 octobre, la peur peut-être malgré tout, même si on n'en a pas parlé comme ça précisément, mais qu'il n'y ait pas de place à un film qui pense la complexité de la situation. Que c'était un moment où c'était pas le moment de réfléchir, c'était le moment peut-être de se taire, c'était le moment des invectives, le moment de l'affect. Je pense que c'est... La première raison, c'était que mon premier film est sorti. La deuxième raison, c'était peut-être attendre que l'espace se recrée pour la discussion et la complexité.
David, un grand merci. Donc, on rappelle le quatrième mur qui est prévu pour le 15 janvier. Merci à vous.
Merci à vous.